Je trouve que quand tu es entrepreneur et que tu es seul, tu as du mal à te poser les bonnes questions par moment. Tu te fais aspirer par le faire ou tu cours après éteindre 500 feux. Et des fois, tu prends pas le temps d'avoir du recul et de focusser. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un post-it et d'écrire un mot. Et c'est un mot pour une période d'une semaine ou d'un mois. Mais c'est le truc qu'il faut craquer dans la semaine ou dans le mois. Et j'ai pas le droit de... Je peux faire 40 milliards de trucs et me perdre ailleurs, mais ce truc-là, je sais que si je le fais pas, je fais une grosse erreur.
Salut, je suis Thibaut Fourcade et je vous présente From Scratch, un podcast dans lequel j'invite des entrepreneurs aguerris à partager leur expérience en leur demandant ce qu'ils feraient ou non s'ils devaient recommencer un projet From Scratch. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de me mettre une note 5 étoiles et de me laisser un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous appréciez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste dans la création de start-up et vous allez très vite comprendre pourquoi puisque j'accueille aujourd'hui Patrick Amiel. Salut Patrick.
Bonsoir Thibaut.
Écoute Patrick, dans un premier temps, pour mettre du contexte dans tout ça, je vais te demander si tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens.
Ok, donc en quelques mots, 49 ans, physiquement 49 ans et dans ma tête toujours peut-être 28-29. J'ai grandi à Paris, je suis allé un petit peu à Nice et je savais pas quoi faire au niveau du bac.
Ok.
J'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a mis sur les voies que je connaissais à peine d'une prépa et là j'ai découvert ce que c'était que travailler.
Comme beaucoup.
Ouais, non, certains ont pas mal de prédispositions d'avance et j'avais quelques années où j'avais pris du bon temps à rattraper, donc un bon coup de cravache et finalement avec du recul, c'était une très très bonne chose parce que apprendre à bosser en quantité, des niveaux d'exigence, fixer un challenge, c'est déjà le début d'une histoire un peu entrepreneuriale en
C'est
soi.
sûr.
Et voilà, puis après j'ai fait une école de commerce, je suis allé à l'EDHEC à Nice quand l'EDHEC venait juste d'ouvrir, donc c'était en
D'accord.
soi très entrepreneurial à Nice parce qu'on avait des murs encore un peu blancs, c'est la première année où il y avait trois promos, donc l'école se
D'accord.
construisait.
Ah ouais, tout début.
Et il a fallu avoir plein d'idées pour créer l'école quoi, avec tout le monde. Donc
Génial.
belle aventure
Ouais,
à ce
j'imagine.
niveau-là. Et voilà. Et puis en plus, je me suis mis, tu vois, même l'ADN entrepreneurial. Une semaine avant de rentrer à l'école, j'avais déjà créé une asso avant d'arriver pour
Ok.
aider des jeunes en difficulté dans des foyers
Super.
socio-éducatifs. Et donc commencer à monter ça from scratch en allant à la préfecture, en sachant pas comment faire pour créer une asso, loi 1901 et y aller.
Top.
On a eu plein d'aventures à gérer une équipe dès le début de 40
Ouais.
personnes.
Je crois même que tu as été président du BDE, alors qu'il a fallu créer du coup, parce
Alors, il
que...
existait, il y avait eu deux BDE précédents,
D'accord,
mais
ouais.
je suis marrant parce que je suis le dernier à être entré dans la liste BDE.
Ok.
Et puis, à la fin, j'étais président du BDE. Et pareil, on s'est dit, l'EDHEC à Nice venait d'arriver. Il faut faire des trucs dingues pour montrer nos galons dans la communauté de toutes ces écoles où c'est assez un écosystème fermé. Donc, on a essayé de faire les trucs les plus fous et de se dire qu'il n'y avait pas de limite. Donc, quelques jours avant la campagne présidentielle, on a fait venir Sarkozy,
Non.
quand il soutenait Balladur, des trucs
Incroyable.
assez marrants, mais on se fixait aucune limite. Et ce qui était déjà en soi, je pense, une petite graine un peu starbe, comme il faut
Ouais.
l'avoir de temps en temps.
Ouais, c'est sûr. Donc avant d'arriver à 321 Founded, qui est actuellement la startup finalement que tu as créée, est-ce que tu peux nous dire un peu par quoi tu es passé à la sortie de ton école?
Alors pour faire simple, 2 ans à l'étranger, Chili, Mexique, bossé pour la Société Générale. Je suis rentré en France, j'ai bossé un peu dans le conseil, ça s'appelait Andersen Consulting à l'époque, ça n'existe plus,
D'accord.
qui est devenu Accenture quoi en gros.
Ouais.
Et après, quelques passages en agence où j'ai switché d'agence en agence, où je dirigeais les activités internet ou quelques agences marketing parisiennes. Et j'avais toujours ce goût d'inachevé de donner des conseils sans avoir fait, donner des conseils sans aller au bout des sujets, tu vois,
Ouais.
accompagner finalement ce que t'as fait, est-ce que ça marche, ça marche pas.
Bien sûr.
Toujours cette frustration de pas aller au bout. Et à un moment, nous a consulté une des boîtes, une start-up qui s'appelait le Wengophone,
OK.
qui était un outil comme Skype. Donc on est en 2006 et ils voulaient faire une campagne de com pour faire connaître leur outil.
Ouais.
Ils avaient 6 millions de personnes qui avaient téléchargé, pas beaucoup de revenus.
D'accord.
On a répondu à l'appel d'offres, on l'a paumé.
Ah
Plus de nouvelles des gars que j'avais rencontrés à cette époque-là.
ouais.
Et un an après, je reçois un mail de 3 lignes de David, qui est devenu mon associé après, où il m'a mis mot pour mot, cher Patrick, je ne vais pas y aller par 4 chemins. On s'apprête à lancer, ça s'appelait WDeal, ce
Ouais. OK.
service, qui était une marketplace de services.
D'accord.
Il avait écrit, je vais pas y aller par 4 chemins, est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre? Comme j'avais toujours cette graine où je me disais, je suis en ébullition dans des postes où je me sens pas être à ma place,
Ouais.
je lui ai répondu, cher David, je vais pas y aller par 4 chemins, voyons-nous à 17h. À
Ah
17h, on s'est vu, à 19h, je suis rentré, et j'ai vu mon épouse, et je lui ai dit, écoute, je crois que je vais faire une grosse connerie, mais je vais tout lâcher pour m'associer avec des mecs que je connais pas, pour monter un truc je suis pas capable de décrire vraiment, mais je sens que les mecs sont incroyables, sont bons et j'ai envie d'y aller.
Ah, génial.
Voilà. Et donc, important aussi quand on monte une boîte, c'est d'aligner le perso et le pro. La chance d'avoir une épouse qui me soutenait à 100% et pour éviter de créer des distorsions, parce que forcément, tu baisses à ce moment-là en revenus, en plein de choses.
C'est voilà. D'autres sacrifices.
C'est des sacrifices, mais heureux.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc là, tu y restes combien de temps dans ce que vous créez?
Donc, on part en quête de fonds. Donc là, je les rejoins. On part voir une trentaine de fonds d'investissement. On se fait jeter de tout le monde. Ce qui est bizarre, c'est que comme moi, j'étais pas entrepreneur à cette époque, tu vois que des professionnels de l'investissement et tout le monde te dit non, bah non, bah non, bah non, bah non, une trentaine de fois. Donc, à la fin, tu peux avoir un peu de doute, mais.
Ah, bah, complètement, j'imagine.
Mais on n'a pas lâché. On était 5 associés. On n'a pas lâché. Et puis, on y est arrivé. Avec Vintech comme fonds d'investissement et Jacques Vera via 9CGTL qui a mis de l'argent parce qu'il connaissait déjà le reste de mes camarades cofondateurs à l'époque. Donc, il y avait un climat de confiance. Et donc, on s'est lancé là et cette aventure a duré 11 ans à peu près, 11 ans, 11 ans et demi. On est parti de pas grand-chose pour amener à une boîte où on avait 250 ou 260 salariés, qui était rentable, qui était dans 9 pays, et on mettait en relation des particuliers avec des professionnels. Donc, si Thibaut, tu as besoin d'un avocat, par exemple, on te mettait en relation à la minute avec un avocat.
Ok.
Tu mettais ta carte bleue sur le site, ton numéro de téléphone, ton téléphone sonnait, on gérait toute la mise en relation, la facturation. Et on faisait avec des avocats, des astrologues, des profs de maths, tous les marketplaces de services.
Génial. Il semble que vous aviez fait un service aussi pour le médical de mise en relation avec des médecins G. Alors, est-ce que c'était un peu le précédent de Doctolib ou?
Alors, on avait envie de faire un peu de télémédecine, on avait à peine effleuré, mais on n'est pas allé très loin. Et à un moment, on avait racheté une boîte et on l'a renommée pour qu'elle s'appelle rendezvousmedicaux.com.
D'accord.
Il faut faire au moment où Doctolib s'est lancé, il existait déjà Click Rendez-vous lancé par les pages jaunes, Solocal, qui existait déjà depuis quelques années. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'une boîte comme Solocal, qui avait tous les médecins de France, qui avait Click Rendez-vous, qui a des commerciaux, ils avaient tous les ingrédients pour faire un docto, quoi. Et nous, on avait un petit service qui s'appelait rendezvousmedicaux.com avec quelques milliers de médecins. Et à côté, Stanislas Nyok-Château lance Doctolib, où il a été juste extrêmement bon, quoi. Il a écrasé tout le monde assez rapidement parce que très bon en exécution, des levées de fonds conséquentes et chapeau.
Et de la com, peut-être aussi.
Ouais, je pense qu'au début, il n'y avait pas tant de com que ça. C'était plutôt un travail acharné. Il a été, à mon avis... excellent sur le côté sales. Il a mis des commerciaux sur le terrain assez rapidement. Ils ont été très bons, voilà, pour convaincre tous les médecins de France de venir. Et en référencement naturel, il a été meilleur que tout le monde au début.
Donc ça, cette aventure, elle dure jusqu'en 2017, c'est ça?
En mars 2017, je quitte, effectivement.
Qu'est-ce qui te pousse à quitter?
Qu'est-ce qui me pousse Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, peut-être, sentiment un peu de tourner en rond les dernières années. C'est-à-dire qu'au bout de 11 ans et demi, sentiment que les sujets qu'on aborde, les marchés qu'on aborde, on a essayé, on les connaît un peu, une certaine routine se met en place. Et d'autre part, peut-être un désalignement, les quatre associés qu'on était à l'époque. Et en bonne intelligence, qu'on s'adore et on s'adore toujours, on décide, moi je décide de partir.
D'accord. Ouais.
Et là, j'avais pas d'idée en tête. Donc, je me retrouve dans un café, je me souviens exactement lequel, avec une feuille blanche, un crayon, et me dire, bon, maintenant.
Comment je me réinvente?
Qu'est-ce que je vais faire?
Génial. Donc là, il me semble que tu pars pas spécialement, tu montes pas tout de suite quelque chose, tu vas investir dans des boîtes et tu vas aller au board d'un certain nombre d'entales, c'est ça?
Ouais, alors c'est pas une fin en soi. Non, je suis parti en sachant pas trop quoi faire et en me disant, la première chose que j'ai faite la première année, et je pense que c'est très riche, c'est que un peu dans ta démarche à travers ce podcast de rencontrer, de se mettre au milieu de l'écosystème, étant un peu connecté sur les réseaux sociaux, j'ai dit qui veut un coup de main et la première année, j'ai aidé plus de 300 entrepreneurs.
Ah, génial.
J'ai dit qui veut une heure et j'allais dans tout Paris, j'en ai vu 317 exactement dans mon
fichier.
De nouveau, mon épouse me dit, mais bien, arrête, c'est pas possible, souffle un coup, mais en fait, ce qui me faisait plaisir, c'est à la fois de donner du temps pour essayer d'aider et aussi d'apprendre en quelque sorte que j'avais fait la même chose dans le même secteur pendant 11 ans. Là, de redécouvrir des nouveaux secteurs d'activité, des nouvelles pratiques, de voir comment d'autres associés fonctionnaient entre eux.
Bien sûr.
Ça a été hyper riche. Donc, j'ai fait ça. Et l'autre chose, c'est que j'intervenais de temps en temps à l'INSEAD ou au CEDEP, non pas en MBA, mais en exécutif programme.
D'accord.
Et à chaque fois, je voyais les boards de grandes boîtes du CAC 40, et avec un certain désarroi sur les sujets digitaux, et ça m'en effet. Et c'est là où le début de 3D Infondé a commencé à émerger. Je me suis dit, c'est dingue que ces boîtes-là trouvent pas davantage les clés quoi pour prendre réellement, parce que entre le tempo de ces boîtes-là et le tempo du marché qui accélère 10 fois plus vite, il y a un certain décalage qui se crée.
Bien sûr.
Et début de l'histoire, je me suis dit, ben voilà, moi, ce que j'aime, si j'écoute mes tripes, des fois, tu réfléchis trop et il faut écouter aussi un peu le bide pour savoir qu'est-ce qui va te motiver à te lever le matin. Ce que j'aime, c'est créer, prendre des murs, traverser le désert en équipe et me dire comment on peut créer quelque chose qui a du sens, pas juste créer pour créer, mais quelque chose qui peut avoir une vraie trajectoire.
Ouais.
Et c'est là où je suis retourné voir ces boîtes que j'avais rencontrées en disant, vous voulez pas qu'on s'associe pour monter des boîtes. Donc
génial.
Ça, c'est le début de cette aventure.
D'accord. Et donc, cette aventure, au début, parce que tu dis que tu voulais t'entourer, mais tu l'as fait seul?
Non.
Non, d'accord.
La première chose, même avant d'avoir une idée très claire de ce que je voulais faire, je me suis associé avec Romain Ledru-Maté, qui était en fait un de nos collaborateurs qu'on avait embauché dans ma boîte d'avant.
D'accord.
Je pense qu'il nous a réunis, il y a trois choses. La première chose, c'est un mot, c'est bienveillance.
Ouais.
On s'est dit, on va essayer de faire un truc qui fait du bien. On verra à qui, à quoi. Je sais pas encore, c'est pas très clair, mais si on peut essayer de se faire du bien, de faire du bien aux gens qui nous rejoignent, ce qui est déjà une fois et nice to have à la société, à la planète, ça fera du bien. Donc ça, c'était la première chose. J'ai dit, voilà, on était sur un toit d'un immeuble, on s'est dit, tous les deux, on va faire un truc avec ce mot au cœur. On est parti là-dessus, donc c'était pas très clair. La deuxième chose, c'est qu'on est hyper complémentaires. Moi, là où je suis plutôt, ministre de l'extérieur, lui ministre de l'intérieur.
D'accord.
Voilà, lui, tu lui donnes un gros plat de spaghettis très compliqué. Il adore le démêler. Moi, je regarde et j'arrive même pas à rentrer dedans.
Ouais.
Donc, on a vraiment assez complémentaires. Et la troisième chose, on dit on va essayer de faire un truc grand, mais on sait pas quoi encore. Voilà, on en était là.
D'accord.
Et au début, la première année, on a itéré à essayer de travailler avec pas mal de grandes boîtes.
Ouais.
Plein d'échecs, parce que, pour la faire simple, il fallait graviter et voir X personnes chez eux pour commencer à fédérer une idée. Et ensuite, quand on commençait à y arriver, le mot s'associer, c'était le red flag.
Ouais.
C'est pas du tout dans la culture, ça ne marchait pas. Donc, on a essuyé pas mal de plâtre au début.
Ok. Donc maintenant, donc 3D1 Founded, donc début en 2019, donc là maintenant ça fait 3 ans.
Ouais.
J'imagine que ça a pris depuis. Quel était un peu le déclic? Qu'est-ce qui vous a permis de pérenniser ce modèle?
Je vais dire un truc pour nous envoyer des fleurs, mais un autre qui est plus réaliste. Non, je pense qu'il y a un peu un momentum. Il y a aussi pas mal de boîtes qui ont essayé, tu vois, de se dire j'ai envie d'attaquer un nouveau marché et lancer quelque chose de nouveau. Donc soit elles l'ont fait en interne et elles voient que ça patine un peu pour plein de raisons quand t'es trop en interne. Deuxième chose, elles font appel à un cabinet de conseil et là, elles se disent ouais, « c'est super, mais j'ai du slide hors de prix, mais je n'ai pas encore monté une boîte.
» C'est surtout ça.
Ou de faire appel à une agence marketing où elles gagnent le grand prix stratégie, mais ça ne fait toujours pas une boîte. Donc, momentum, c'est que et l'entrepreneuriat et d'autres choses. Donc, nous, on propose un nouveau modèle à travers un corporate startup studio.
D'accord.
Et donc, je pense qu'elle voulait, essayer autre chose. Donc, on était là au bon moment pour essayer autre chose. Maintenant, elle nous démontrer que c'est la meilleure option.
Ouais.
Et qu'on a un peu craqué le modèle en ajustant plein de paramètres pour y arriver.
En quoi ça diffère concrètement de l'entrepreneuriat?
Rien à voir. L'entrepreneuriat, je pense qu'il y a deux freins. Un, c'est en général lancé par un salarié qui a pas du tout les réflexes entrepreneurs.
Ouais.
Donc, il a peut-être l'envie, mais pas les réflexes entrepreneuriaux. Je vais y revenir. Et l'autre chose, c'est que c'est souvent pensé petit.
D'accord.
Il y a, je sais pas combien, 120 entre intrapreneurs dans X boîtes du CAC 40. Tu t'en mets un peu partout, mais c'est dur de les gérer, de l'organiser, de savoir les aider à scaler. Donc ça plante plein de petites graines. Je citerai pas les groupes, mais je trouve que des fois ça aboutit pas. Derrière, la particularité, c'est que nous au sein de 3D1, on est 40, mais on est 40 entrepreneurs.
Ouais.
Et 40 entrepreneurs avec un cerveau et une méthodo capable de bosser avec des large companies. Nos actifs aujourd'hui, il y en a trois. On a une équipe incroyable. Moi, j'adore parce que tout le monde a monté une ou deux boîtes. On est câblé pareil. Et dès qu'on fait venir quelqu'un, donc faut pas qu'on soit trop sectaire non plus.
Ouais.
Mais qui vient pas de ce giron-là, on se rend compte que c'est pas le
même. Ça marche moins bien.
C'est compliqué. Mais on essaye parce qu'on veut pas être trop entre nous. On a des profils un peu atypiques aussi qui sont pas que entrepreneurs, mais c'est la majorité. Deuxième asset qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a une méthodologie qui permet, je vais le dire pour être toujours un peu provoque, mais d'aller chercher la force du mammouth.
Ouais.
Sans avoir l'inertie.
D'accord.
Parce que personne ne le voit, mais c'est des boîtes qui ont des talents incroyables, qui ont une expertise de dingue, qui ont des circuits de distribution hallucinants, des marques de dingue. Donc nous, on va chercher ça, le côté unfair advantage qu'il y a chez les large companies, qui peuvent être des ETI ou des boîtes du CAC 40. Et à côté de ça, on a un mode opératoire qui permet de pas s'enliser dans 800 réunions. Voilà, ça, nous, on met les hard blocks systématiques, on tombe pas là-dedans.
Ok.
Donc ça, c'est le deuxième actif. Et le troisième, c'est que maintenant, tu le disais, on s'est lancé en 2019. première année un peu chercher le modèle. Et maintenant, on pense que si on se projette à Q1, on aura lancé une dizaine de boîtes.
Okay.
Et on a vraiment aujourd'hui un début de portefeuille, si tu veux. On est co-actionnaire de toutes ces boîtes-là.
Mmh.
Donc, on a un double business model, un peu, je veux dire, accompagnement d'un côté, mais aussi on accompagne dans la durée. Et nous, on sera très content si la boîte, elle cartonne. Donc, on est incentivé là-dessus.
Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de durée, c'est pas sur, c'est jusqu'à attendre de, d'attendre le product market fit et puis après,
on accompagnera et puis on se diluera, en série A, série B, parce qu'on n'est pas un fonds, donc on n'a pas la capacité d'investissement. Mais on sera très content d'avoir été cofondateur de toutes ces boîtes.
Ouais, ça doit être super riche en plus en expérience.
C'est riche. C'est, je pense aux équipes qui sont restées au boulot ce soir, parce qu'on a un truc qu'on est en train de préparer là.
D'accord. Ouais. Super. Écoute Patrick, maintenant qu'on a fait un bon tour de ton actualité et de ton passé pour mettre du contexte avec tout ça, donc je le disais, t'as une grosse expérience dans l'entrepreneuriat et on comprend bien pourquoi. Justement, avec tout ce passif, selon toi, qu'est-ce que tu referais ou non si tu devais recommencer un projet from scratch? Quel serait ton état d'esprit, ce que tu mettrais en premier, tes premiers points d'attention?
Ben, je pense que c'est assez le quotidien par rapport aux boîtes qu'on lance aujourd'hui. On a quand même deux réflexes systématiques.
Ouais.
Les deux mots-clés, ça va être sortir et s'entourer. Pas rester à développer un produit dans son garage, à le parfaire, à améliorer les features. Certains le font des fois en cercle clos, il y a encore plus des ingénieurs que d'autres. Puis à la fin, t'as développé un truc génial, mais est-ce qu'il répond à un besoin? Est-ce que t'as assez de sous pour le commercialiser ou de temps? Donc, assez rapidement, d'aller parler avec des gens de la catégorie dans laquelle tu te lances, du secteur, et d'aller leur dire, écoute, j'ai envie de lancer ça, il y a pas de secret polichinelle, hein. Je pense qu'on pourrait te donner le BP de, je sais pas quoi, de Saurer à un moment donné, c'est pas pour ça que tu aurais exécuté mieux que l'équipe.
C'est sûr.
À rester secret, je pense que ça n'a pas beaucoup de valeur, mais de dire, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai déjà un proto, j'ai déjà un début de quelque chose, j'ai besoin de comprendre le client, j'ai besoin de comprendre qui va me payer, comment le vendre, c'est quoi les conseils, d'aller voir quelques personnes du secteur pour avoir leur feedback, déjà c'est indispensable. On a dû te le dire déjà dans tous les autres podcasts, mais aller se confronter très vite à la réalité, et puis deux, de s'entourer, parce que ça dépend si t'es un peu primo entrepreneur, et même pour d'autres, parce que tu vois là, je suis en train de réfléchir à créer un board sur 3D Unfounded là actuellement, mais avoir un board, c'est hyper sain, avoir un ou deux advisors qui t'accompagnent un peu dans la durée, choisir des gens qui ont déjà été entrepreneurs, qui vont te dire, attends, passe pas ton temps là-dessus, ou là, tu vas te prendre un mur. Après, tu fais ce que tu veux, des conseils, tout n'est pas... Voilà, ils n'auront pas la vérité sur tout, mais je pense qu'il faut s'entourer.
Ouais, et puis ça apporte un point de vue extérieur qui peut être un peu plus objectif que quand on allait être dans le guidon.
Un peu plus, avec un peu plus d'expérience. Ouais. Je pense écouter ses parents, ses aïeux, ça a du sens. Quand on comprend que ça a de la valeur de les écouter, parce qu'au début, on est un peu ado rebelle, mais quand tu comprends, tu te dis, ah tiens, c'est marrant, ils étaient quand même bienveillants pour moi, ils avaient quand même des choses que je ne savais pas. Et là, donc si je transpose là-dessus, je pense que tu as tout à gagner à aller t'entourer d'une ou deux personnes. Et s'il faut lâcher un point ou deux du cap pour que les gens s'investissent, ça peut avoir une valeur de dingue.
Ouais, bien sûr. Est-ce que dans tes activités précédentes ou même actuellement, tu as connu des échecs et que tu as su les analyser et que tu ferais différemment?
Ouais, bien sûr. On en a connu plein. Hein. Je pense que ceux qui n'ont pas d'échecs sont des entrepreneurs qui feraient mieux de jouer au loto.
Ouais.
Non, on a tous connu des galères. Tout à l'heure, on citait le cas avec Rendez-vous Médicaux qu'on avait lancé Doctolib. Donc, c'est franchement, je pense qu'on était globalement là au bon moment, mais on n'a pas su exécuter aussi bien que d'autres.
Qu'est-ce qui a manqué?
C'est, je pense qu'il y a une histoire d'horloge interne. C'est-à-dire que nous, quatre associés, à ce moment-là, on n'était pas forcément alignés sur la façon d'opérer.
Okay.
On avait un actionnaire qui était Vivendi via Vincent Bolloré, qui, quand on allait le voir pour le projet, nous a donné le fuel qu'on demandait. Donc, il a voulu investir, hyper sponsor. Mais là où Docto a mis 60 millions, quand nous, on débloquait 3 millions.
D'accord, ouais.
Donc, on n'était pas à la bonne échelle, pas assez ambitieux à un moment. Il faut comprendre à quel moment tu es dans la rigueur de gestion et être capable de comprendre qu'à un moment, il faut switcher et changer complètement. Et c'est compliqué de changer de mindset ou t'essaies d'être rigoureux pour bien gérer une boîte. Et puis à un moment, tu dis, merde, là, je me bats plus à armes égales avec les autres. Là, je vais être distancé et que c'est compliqué.
Ouais.
Donc voilà, de s'adapter à des environnements un peu conjoncturels et changer ton processeur. Ça, c'est un exemple. Autre échec qu'on a connu. Non, après, c'est un autre point, mais c'est moins sur des boîtes from scratch. Un échec relatif, c'est qu'à un moment, on a grandi. Tu vois, quand on était une quarantaine de personnes, on a racheté une boîte. On essayait de se fusionner avec là, de fusionner tous les systèmes d'info, les équipes. Et je pense qu'on s'est un peu perdu plus à gérer une intégration d'une boîte qu'à continuer à gérer la croissance. Bon, et on a appris à ce moment-là qu'on ne pourrait scaler que si on avait des fondations humaines importantes.
Ouais, bien sûr.
Et on n'avait pas totalement intégré cette dimension. Au début, t'es tellement en train de courir après 1 euro de chiffre d'affaires. Après, tu vois, tu dis, tiens, ça marche, il faut vite, tu gères le produit, tu gères le go-to-market, tu gères ton marketing, tu gères tout ça. Mais nous-mêmes, associés, on devenait un peu bloquants dans la croissance. Il a fallu qu'on... Tu vois, en fait, à chaque étape, il faut se réinventer.
Ouais, bien sûr.
Quand tu as la croissance.
Ouais.
Donc, il y a l'autre étape au début qui est un peu plus dure. Mais là, il faut que tu dises, il faut que j'arrête de fonctionner comme je fonctionnais hier. Et quelle est ma nouvelle posture dans la boîte? C'est pas évident.
Ouais. Avec tous les entrepreneurs que tu as pu accompagner, hein, tu disais 321 boîtes que tu as suivies. 317, pardon. Est-ce qu'il y a des questions qui revenaient le plus fréquemment? C'était un peu leurs enjeux pour eux.
Les enjeux, si c'est très early, à part les besoins de financement, c'est de chercher du client, quoi.
Ouais.
Ce qui est sain, mais c'est la bonne question. Donc, d'arriver à ce début de traction pour montrer que ta boîte, elle prend. Je trouve qu'il y a souvent trop de discussions qui sont autour du produit à ce moment-là. Et on se perd dans des discussions assez théoriques. Est-ce que j'ai le bon produit? Est-ce que j'ai pas le bon produit? Bah, tant que tu l'as pas mis en face de ton marché, et de comprendre à quel moment dans le go-to-market, t'as le bon produit en face de la bonne audience. Donc, de faire se joindre les deux. Des fois, t'as le bon produit, mais tu l'exposes pas à la bonne personne.
Oui, bien sûr.
Donc, de travailler ça avec précision. Ça, c'est une question qui revient souvent. La deuxième question, c'est souvent des besoins de financement ou d'association. Quoi dire, voilà, j'ai fait ça, mais si c'est très early, j'ai pas toutes les compétences, comment je trouve un associé?
Ouais. Ça te paraît indispensable aujourd'hui de faire financer, de lever des fonds pour monter un business qui se veut avoir une croissance?
Bah, de façon, non, quoi. Il y en a qui arrivent sans. Donc, discuter avec des gars qui étaient à l'origine de Région Job, qui est devenu Hello Work, là, qui est basé à Rennes.
Ouais.
Quand tu prends l'histoire de la boîte, ils ont eu un investisseur qui était un peu industriel. C'est le groupe Telegram, mais ils ont pas levé des fortunes. Ils ont fait une boîte qui est quand même remarquable avec plus de 500 collaborateurs aujourd'hui, leader dans l'emploi. Donc, c'est possible sans passer par une levée de temps.
Ouais.
Mais après, ça dépend à quel moment t'es dans la vie d'une boîte. Et aujourd'hui, si tu veux te lancer from scratch, un peu le thème de ton podcast.
Totalement.
C'est chaud quand même aujourd'hui parce que les fonds qui financent from scratch, il y en a très peu, il y en a très peu, mais c'est pas du from scratch, c'est soit t'es serial entrepreneur et ils vont miser sur toi.
Ouais.
Et là t'as un peu de from scratch, si je dis pas de bêtises, mais un fondateur de MemoBank, Jean-Daniel Guyot ou Loïc Soubéran de Swile aujourd'hui, ils sont partis quasiment d'un PowerPoint, je crois, au moment où ils ont eu le financement, mais ils avaient un track record incroyable.
Ouais.
Donc ça, c'est des cas exceptionnels. Après, si t'es un entrepreneur et tu pars de zéro, on va te demander quand même d'avoir prouvé quelque chose. Donc il faut que t'aies déjà un produit en ligne, il faut que tu montres que t'as déjà un peu de traction, que t'as déjà des clients, un début de chiffre, et tout ça, comment tu le finances? Et si t'as pas de réseau personnel, chaud.
Ouais, bien sûr.
Et encore plus aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr. Donc justement, avant d'avoir ce financement-là, donc on est souvent effectivement au stade du PowerPoint, donc on n'a pas forcément un produit à mettre entre les mains. Justement, à ces stades-là, si toi tu devais recommencer quelque chose demain, tu t'appesantirais sur quoi en premier? Tu nous as parlé effectivement de s'entourer, c'est important.
Mais aujourd'hui, je pense qu'un PowerPoint, ça vaut rien.
Ouais.
Le mec qui arrive à lever avec un PowerPoint, s'il n'a pas été serial entrepreneur avant... Je vois pas qui, j'ai personne à te citer là-dedans, et je vois pas qui mettrait de l'argent sur un PowerPoint d'un inconnu qui ne connaît pas.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, moi, si je vais partir from scratch et si j'avais pas des moyens, comme la technologie le permet aujourd'hui, je créerais une V0 et de la technologie light, quoi, du no-code ou d'autres choses, où je me trouverais un pote à qui je dirais, débrouille-toi, t'es un excellent dev, pour moi un truc, j'ai juste très peu à te filer, ou un peu de cap, ou quoi, à la débrouille, mais si le gars, il est incapable de mettre un truc en ligne, il faut qu'il s'arrête, quoi. Et s'il pense que sur un PowerPoint, il va y arriver, je pense qu'il aille dans un cabinet de conseil.
Ouais.
C'est là-bas où ça se passait. Donc, je dis ça peut-être un peu cache et provoque, mais j'ai peu de cas de gens qui sont arrivés comme ça. Et donc, je pense qu'il faut très vite se dire, attends, je me débrouille, il faut que j'ai un truc en ligne, c'est quoi? Ensuite, j'ai un truc en ligne, ok, comment je me débrouille pour avoir quelques users? Puis quelques clients qui payent. Et une fois que j'ai ça, je me dis, wow, je suis un peu limité, je vais pas arriver à tout faire. Avec qui je dois m'associer? Quelle est la compétence qui me manque pour passer à l'étape d'après?
Ouais.
Mais au début, avec pas grand-chose, il faut faire des merveilles. Hein.
Ouais, bien sûr, c'est sûr.
Et après, si dans ton réseau ou avec sans réseau aussi, parce que j'ai vu des gars qui avaient pas de réseau qui sont arrivés, mais avec un peu d'audace. Tout le monde répond aujourd'hui, hein, quoi. Tout le monde globalement répond à des mails. Y a LinkedIn qui te permet de toucher n'importe qui.
C'est sûr.
Il faut y aller.
Ouais. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu as extrêmement bien exécutées ou faites, mis en place dans tes différents business et que tu referais demain sur un projet from scratch?
J'aime pas les autofleurs comme ça, donc je sais pas. Ce qu'on a bien réalisé dans le passé, dans ma boîte d'avant, je pense que avec mes associés, comme eux avaient déjà eu une expérience entrepreneuriale assez lucide sur les choix,
Ouais.
Deux, on s'est foutu un niveau d'exigence pour y arriver. Il était des fois meilleur que moi là-dessus, mais on allait chercher le détail ou on allait sur le terrain sans avoir peur. Donc, je pense que là-dedans, le côté résilience, ne rien lâcher, parce que quand même, on s'est pris 30 fonds d'investissement qui nous envoyaient pas être au début. On a dû mettre 12 ou 14 mois, encaisser 1 euro de chiffre d'affaires. Il fallait pas lâcher, parce que chacun déborde. Quand tu fais pas de chiffre d'affaires et que tu vois ton BP, tu pars en vrille. C'était pas des moments de rigolade. Non, de pas lâcher. Et à partir du moment où on a vu la lumière sur le début de ce qui a commencé à marcher, là, de s'accrocher à cette lumière et de se dire, ce truc-là qui est petit, il faut que je le fasse devenir plus grand que le soleil, quoi. Et il faut le faire grossir, et te poser toutes les bonnes questions, l'industrialiser. Et c'est tirer la ficelle du premier, le comprendre pourquoi ça marche et aller le répliquer.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui est déjà quelque chose que toi, tu as vécu ou qu'on t'a transmis et que tu aimerais repartager justement à ton tour?
Moi, j'ai une petite routine perso que j'aime bien et que je partage, mais qui est débile, mais chacun a son truc.
Ouais.
Je trouve que quand t'es entrepreneur et que t'es seul, t'as du mal à te poser les bonnes questions par moment. Tu te fais aspirer par le faire.
Mmh.
Ou tu cours après éteindre 500 feux.
Ouais.
Et des fois, tu prends pas le temps d'avoir du recul et de focusser.
Mmh.
Donc moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un post-it et d'écrire un mot.
D'accord.
Et c'est un mot pour une période d'une semaine ou d'un mois. Mais c'est le truc qu'il faut craquer dans la semaine ou dans le mois.
Ok.
Et j'ai pas le droit de... Je peux faire 40 milliards de trucs et me perdre ailleurs, mais ce truc-là, je sais que si je le fais pas, je fais une grosse erreur.
Mmh. T'as un exemple, peut-être?
Un exemple, je peux donner deux exemples. Sur une des boîtes qu'on lance, je sais que l'équipe court après trop de lièvres en même temps. Je leur ai dit, voilà, il y a un seul chiffre, c'est 300.
Okay.
Je veux les 300 premières résas sur tel truc, le reste. Donc, trouvez-moi tous les leviers qui permettent d'y arriver. Et on met les cerveaux dessus. Et donc, du coup, on a trouvé des partenariats qui vont bien, un peu de RefNat, un peu d'AdWords, un peu de trucs. Et on n'est plus en train de parfaire le produit ou voir que le process n'est pas le bon et compagnie.
Ouais.
Ça, fine, mais ça ne nous regarde pas. Et chaque semaine, on se parle que des 300. On en a combien sur les 300? Donc, ça, c'est un exemple concret, mais c'est juste une façon de focusser. Ou inversement, sur 3D1 Funded, il y a quelques temps, on sentait bien qu'il fallait qu'on accélère, qu'on n'était pas assez bon en RH, donc le mot c'était RH. Et donc je me suis dit, voilà, il faut qu'on trouve deux personnes qui nous aident à progresser là-dessus. On a trouvé Marie et Grégoire qui aujourd'hui gèrent cet aspect-là. Et on sent bien le avant-après, après leur arrivée. Si on l'avait pas fait, on aurait continué à courir 17 lièvres. On aurait essayé de mettre des rustines à droite à gauche. On n'aurait pas eu des fondations fortes.
Ouais, j'imagine. Patrick, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre sur LinkedIn?
LinkedIn, Twitter.
Ouais.
Twitter, Pataniel, et LinkedIn, voilà.
Ok, d'accord. Et puis forcément, le site de 3D20 Funded, on peut retrouver ce que vous faites.
On peut, et s'il y a des gens qui sont un peu entrepreneurs dans l'âme, on étoffe le réseau.
Ok, génial. Bah, je mettrai tous les liens, de toute façon, dans les commentaires de la vidéo. Patrick, merci encore, c'était super. J'espère que vous qui avez pu nous suivre, vous avez appris plein de choses. En tout cas, moi, c'était mon cas. C'était vraiment top de pouvoir recueillir ton expérience. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!